Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Ne faites surtout pas, mesdames, messieurs, de crise d'angoisse parce que nous disparaissons de votre vie à chaque semaine quand l'émission se termine, parce qu'on vous retrouve d'une fois à l'autre. C'est bonne humeur, François.
Oui, mais penses-tu sincèrement qu'il y a quelqu'un qui a fait une crise d'angoisse parce qu'on était disparu une semaine?
Non, je pense pas. Mais, pas que j'haïrais pas ça, mais il me semble de savoir que quelqu'un s'inquiète.
Serait cool, hein?
Ça serait cool.
Oui, c'est cool. On veut pas que ça aille jusqu'à la crise d'angoisse.
Non.
Mais que vous ennuyez, Ah ben là.
Ça serait le fun.
Là, on parle de quelque chose de pas mal de fun.
Oui.
Mm-hmm.
Mais je doute fort qu'il y a des gens, effectivement, qui angoissent de nous savoir pendant une semaine de temps sans avoir leur rendez-vous avec peut contenir des infos.
Oui, effectivement, oui.
Puis ça va bien à part de ça?
Oui, ça va franchement bien. Remarque, ça va bien, mais ma vie est vide un peu ces temps-ci.
Pour de vrai?
Oui.
OK, pourquoi?
Oui, Simon, j'aimerais ça me confier à toi aujourd'hui.
Vas-y, épanche-toi sur ton malaise.
Je vais m'allonger, là, puis je vais te parler un petit peu.
Vas-y, je t'écoute.
Le football est fini.
Ah oui, avec le Super Bowl.
Oui.
C'est fini, là.
Oui, c'est fini. Mais...
Ben, t'es un peu, là, c'est fini pour la NFL.
Oui, c'est fini pour la NFL jusqu'au mois de... Ben, jusqu'au camp d'entraînement au mois d'août, là. Mais non, il y a la UFL, United Football League, qui est une ligue de printemps, qui est la XFL et la USFL qui se sont alliées. Et là, c'est devenu la UFL et ça commence au mois de mars.
Ah, fait que très bientôt...
Fait que c'est pas si tant pire que ça. Ben, ça commence à fin mars.
Bon.
Et entre-temps, ben, il y a du NASCAR.
Fait que le sevrage durera pas trop longtemps.
Non, ça sera pas si tant pire que ça, là.
Bon.
Et après ça, ben, il y aura les camps d'entraînement de la Ligue canadienne de football.
T'es un gars qui aime le football.
Le gars, il aime ça, le football. C'est pas de sa faute.
Ben alors, salutations, mesdames et messieurs.
Oui.
Le gars de football, puis le gars de...
De la cuisine?
Ben oui, j'aime la cuisine, mais je vais aller dire de pas de football.
Non, de pas de...
J'ai même pas regardé 2 minutes du Super Bowl.
Aujourd'hui, à l'émission, on va se parler, mon cher ami. On va appeler plein de sujets pour vous, dont la petite enfance.
Ah oui, vraiment? Ah oui,
oui, oui, oui. On va se parler de petite enfance dans le deuxième bloc de l'émission.
OK. Et ça a à voir, je pense, avec la Société Santé en français.
Exactement.
Okay.
Ça va être intéressant, très intéressant.
On va vous faire connaître une belle initiative, très intéressante.
Dans nos sujets qu'on a eus au cours des dernières émissions, on a entre autres eu le plaisir de parler avec quelqu'un du 911. Tu te souviens?
Oui, absolument, au Nouveau-Brunswick.
À Bathurst, au Nouveau-Brunswick.
Oui.
Bien, aujourd'hui, je vais faire un petit peu de pouce là-dessus et je vais vous parler parce que là, ça commence à sortir. La majorité des postes de GRC sortent les pires appels qu'ils ont reçus au cours de la dernière année.
Wow!
Et là, j'ai ceux de la GRC de la Saskatchewan.
OK, ouais. Là, j'ai attaché votre cacabroche.
Après ça, tu comprends pourquoi, à un moment donné, ces gens-là commencent à manquer de patience. Une personne a appelé pour se plaindre que l'odeur des aliments frits de la patinoire était trop forte.
Il y a quelqu'un qui a appelé la police pour ça?
Oui.
Oh, ouais, hein?
Oui.
Hey, my God. Mais qu'est-ce que... En tout cas...
Qu'est-ce que tu veux... Non, mais tu sais, mets-toi à la place de la personne au 911. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est assez difficile. Mais il faut qu'il reste toujours très gentil, très courtois.
J'aurais de la difficulté personnellement à conserver mon sang-froid.
À un moment donné, ça serait comme...
Honnêtement,
t'as pas d'autre chose à faire, là.
Je les admire, moi, ces gens-là.
Oui, mais je les admire. Une personne en colère a téléphoné pour se plaindre que son gazon n'avait pas été coupé correctement par la personne qu'elle avait engagée.
Fort, ça.
C'est fort. Attends. Une personne inquiète a appelé le 911 pour signaler que son terrain de camping était envahi par des insectes et qu'elle n'avait pas d'insecticides.
Là, je rappelle, mesdames, messieurs, que nous ne sommes pas en Alabama Indiana.
Non.
On est au Canada.
Au Canada, oui. Un appelant a indiqué que son sac de croustilles était resté coincé dans la machine distributrice.
Pour vrai?
Oui. Elle appelait la police pour qu'elle vienne l'aider, oui, pour brasser la machine pour que le sac tombe. Une personne a appelé le 911 pour demander le numéro de téléphone d'un salon de coiffure afin de pouvoir prendre un rendez-vous.
François, il y a des affaires assez invraisemblables pour que tu dises, voyons, il n'y a pas des gens qui pensent des affaires comme ça.
C'est ça, mais oui, effectivement. Il y a une personne qui a appelé en demandant si elle pouvait stationner sa voiture du côté opposé de la route pour éviter que le soleil ne frappe l'intérieur en cuir du véhicule. Mais ça, je peux comprendre. Parce que, honnêtement, t'asseoir dans une voiture au soleil avec des sièges en cuir quand t'es en shorts, c'est pas agréable.
Je comprends le malaise. Ce que je comprends, moi, en revanche, c'est d'appeler la police pour demander si tu peux te parquer l'autre bord.
Effectivement.
Ça, c'est comme wow.
Il y a une personne qui a appelé en disant que la pile de son détecteur de fumée était faible et a demandé qu'un agent de la GRC vienne lui en apporter une neuve.
Il y a des trolls hein, là-dedans, je suis certain. Il y a des gens...
Il faut.
Je ne peux pas appeler la police, demander qu'un agent de police vienne t'apporter une batterie mettre dans ton détecteur de fumée.
Non, il faut que...
Il faut que tu trolles.
Oui. Un parent a téléphoné au 911 pour se plaindre que son enfant ne voulait pas faire le ménage de sa chambre.
Bon. OK. C'est comme...
Des répartiteurs du 911 ont reçu un appel d'une personne disant que des guêpes étaient entrées dans sa maison et qu'elle voulait qu'un agent vienne l'aider à les faire sortir.
Ben oui, tu sais, le gars, il traîne un soude contre les guêpes.
Ben oui, c'est ça.
En arrière.
Un raid, peut-être?
Ben, ou encore...
ouvre les portes et les fenêtres, là.
Un type comme Louis et la faune urbaine, par exemple.
Eh ben voilà.
Qui joue à la télévision sur UniTV. Par une plug en même temps.
Ben oui, nos amis d'UniTV. Ben oui. Une personne a téléphoné au 911, c'est le dernier, pour se plaindre que son ami l'avait frappé au visage pendant leur match de boxe.
Mais pendant quoi? Un match de boxe, tu viens dessus? Ah ouais, hein?
Pour de vrai. Ouais, c'est parce que là, on boxait, puis là, il m'a frappé.
Ben, c'est de bad game, tu sais.
Oui, c'est ça.
Et ça se passe, rappelons-le, mes très chers amis.
Oui, ici même.
Ici même au Canada, en Saskatchewan. C'est la GRC de la Saskatchewan.
C'est ça. Il y a la Colombie-Britannique qui a sorti aussi dernièrement, il y en avait des bonnes aussi. Là.
Je vais aller dans un registre un peu moins rigolo, quoique c'est quand même assez impressionnant.
OK.
Je dirais même fascinant. La paléontologie, l'archéologie, les affaires comme ça. Est-ce que c'est le genre d'affaires qui te fascine ou qui...
Qui me fascine. Disons que je trouve ça intéressant.
Intéressant. Ça te surprend.
C'est ça.
Là, c'est quand même assez surprenant ce que je vais vous sortir là. C'est qu'il y a des chercheurs qui ont annoncé avoir découvert au Maroc plus de 80 traces de pas d'êtres humains, mais attention, qui ne datent pas d'hier ou...
Semaine passée. Là.
Non. D'à peu près 100 000 ans.
Hein?
C'est assez remarquable de trouver...
Des pas.
Des pas, oui. Des traces de pas.
Des pas qui datent de 100 000 ans.
Oui, c'est un peu remarquable parce que trouver des ossements en soi, ça, c'est une chose.
Oui.
Travaux archéologiques. Mais là, trouver des traces de pas qui sont encore perceptibles après autant de milliers d'années, ça, c'est une autre histoire.
Ben oui.
C'est une découverte qui est à ce point... particulière qu'on en a fait une publication dans la revue Nature en janvier dernier, qui est quand même une publication
assez sérieuse. Oui.
Et la découverte remonte quand même à 2022, mais le temps de faire les vérifications et tout cela, puis d'écrire, puis d'étayer, évidemment, le genre de découverte, ça prend quand même un petit peu de temps. Il s'agirait des plus anciennes traces de pas d'êtres humains connues en Afrique du Nord et au sud de la Méditerranée. Et je dirais pas... de toute la planète, mais en tout cas, parmi les
pas
plus
loin,
rares.
Ouais.
Ouais. C'est une découverte qui apporte des preuves supplémentaires donc, sur l'importance de cette région-là dans l'histoire de la race humaine. On savait que le nord de l'Afrique, entre autres, ça avait été le presque berceau de l'humanité, dirions-nous.
Ben oui.
Mais ça, là, c'est 100 000 ans, là, ça quand même. C'est des empreintes d'Homo sapiens qui auraient été laissées par au moins 5 individus distincts, et parmi eux des enfants. Et il semble que les individus se promenaient sur une plage, s'en allaient en direction de la mer pour... probablement. Puis ça, c'est coûte 100 000 ans, là, on a été le demander, là, mais on pense qu'il marchait pour aller pêcher, pour aller chercher de la nourriture.
OK.
Très probable. Et le pire dans tout ça, c'est que les chercheurs marocains, français, espagnols et allemands qui ont fait cette trouvaille-là, c'est même pas ça qu'ils cherchaient, là. Ils faisaient même pas des... En fait, c'était des
travaux. Ils sont comme tombés là-dessus.
Oui, absolument. Et ils cherchaient les origines et la dynamique des blocs rocheux qui jonchent le littoral de cette partie du monde. Et ils sont tombés sur ces traces de pas qui dataient de plusieurs centaines de milliers d'années. On les a passées avec les méthodes qui sont courantes, là, comme le carbone 14 et d'autres
choses
comme ceux-là, pour s'apercevoir que, hey, pas du monde qui a marché ça il y a 2000 ans, là. C'est du monde qui... 2000 ans, c'est le Christ, là, tu sais. Quand on parle de notre époque à nous autres, on est en 2024.
Ben oui.
Donc, non, 100 000 ans.
Mais tu sais, d'arriver à pouvoir dire, hey, c'était pas là, là. C'est pas il y a 100 ans, là.
Ouais. Il y a des gens qui ont...
Quand tu fais cette découverte-là, là, peux-tu t'imaginer faire la découverte?
Moi, j'aime l'histoire, j'aime les sciences humaines, j'aime la géographie, des affaires comme ça. Puis je me dis, me retrouver en avant des pas, puis on me dit, monsieur, c'est un sol qui a été foulé il y a 100 000 ans. Tu sais, tu dis, OK, je les vois pas, je sais pas dans quel contexte ça a été fait nécessairement, mais juste d'imaginer que ça, c'était un endroit qui était jadis peuplé, qui était jadis...
Absolument.
C'est quand même assez particulier. C'est l'un des sites dont les traces humaines ont été les mieux préservées à l'échelle planétaire. Il faut dire qu'en 2017, on avait mis au jour, sur un autre site au nord-ouest du Maroc, des restes d'Homo sapiens. Homo sapiens, ça, c'est nous autres à toute fin utile. Ben, Homo sapiens, c'est le dernier spécimen de la race humaine qui est resté sur Terre. Et les chercheurs avaient daté ces restes humains ou ces restes d'Homo sapiens d'il y a 300 000 ans.
300 000 ans?
Oui. Alors, puis la trouvaille avait permis à cette époque-là de repousser d'une centaine de milliers d'années l'origine de notre espèce qu'on estimait jusque-là à 200 000 ans. Donc là, on sait qu'il y a 100 000 ans, ça marchait là.
Oui.
Il y a 200 000 ans, on a déjà trouvé des restes. On en a trouvé encore de 300 000 ans. Va savoir si dans... Peut-être que dans l'année prochaine ou une autre, on va dire, on peut pousser encore l'origine.
On va trouver encore plus vieux que ça, Mais que ce soit préservé tout ce temps-là...
Ça, c'est fascinant.
C'est assez fascinant, oui. Effectivement.
Ouais. Trouver des fossiles, tu sais, des fois, on voit ça. Moi, j'avais déjà trouvé un petit fossile d'une espèce de petite bébite dans une roche. On prend une roche, là, puis on avait trouvé une espèce de... Je ne sais pas si c'était une espèce d'insecte ou je ne sais pas trop, avec des petites pattes.
Un dinosaure?
Ben, je sais pas si c'est un dinosaure. Non. Un petit insecte, c'était gros comme la paume de la main, à peu près tout petit. Puis on avait trouvé ça dans une roche. Puis là, t'es pas capable, là. T'es ado, t'es jeune.
Ben oui.
T'es pas capable de dater de quelle époque ça date. Mais c'était quand même fascinant d'avoir trouvé ça là-dedans. Mais là.
Qui est dans une roche.
De marcher sur une plage, puis de trouver des traces de pas, puis de dire, ben, ça date de quelle année? Puis il arrive des spécialistes, puis ils se mettent là-dedans, puis ils commencent à dire, hey, attends un peu, là. C'est que c'est pas.
Tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui a remarché par-dessus ces pas-là, que. Ça, c'est juste. C'est ça.
Surprenant.
Oui.
Dans un tout petit instant, on parle de la petite enfance.
Effectivement.
Avec quelque chose de bien intéressant de la Société Santé en français. Restez branchés.
Restez en contact avec Le Contenir des Infos.
Le Contenir des Infos. Le Contenir des Infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des Infos.
François, je suis franchement emballé.
Tu es emballé?
Oui, et je vais t'expliquer la raison pour laquelle je suis emballé.
J'aimerais ça que tu me l'expliques.
Comme un petit bonbon dans du papier.
Oui, c'est ça.
Non, mais sérieusement, c'est que je m'aperçois que l'émission commence à avoir une notoriété quand même assez intéressante.
C'est vrai?
Bien, on rayonne aux quatre coins ou à toute fin utile de la francophonie.
Effectivement, oui.
De Victoria en Colombie-Britannique jusque dans les provinces de l'Atlantique.
Oh oui, d'un océan à l'autre et à l'autre.
Ah oui, et à l'autre.
Et à l'autre,
dans le nord canadien, à Iqaluit et dans le territoire du Nord-Ouest et tout ça. Et suffisamment pour que la Société Santé en français...
Oui.
Aurais-tu deviné qu'il se consacre à la santé...
En français?
En français, oui.
Ah, tiens.
Alors, eux autres, ils ont dit, ben, on aimerait profiter de la notoriété de Peu Contenir des Infos et du fait que c'est diffusé à la grandeur du pays pour faire connaître une bonne initiative.
Ah ben ça, j'aime ça.
Ouais. Alors, c'est un contenu qui a été préparé puis qui va nous parler d'une initiative, appelons ça d'éducation à la petite enfance.
Oui, la petite enfance en français.
Exactement.
Oui.
Parce qu'on sait que avoir les jeunes, si on veut, qui continuent à parler en français de façon durable, il faut les partir quand ça tout.
Faut que ça commence de bonne heure,
C'est dans l'éducation, entre autres, à la petite enfance, que ça passe, entre autres choses, et puis dans des soins de santé en français.
Ben oui,
tout ça. Alors, absolument. C'est pour ça qu'on va vous présenter ce contenu qui a été préparé par la Société Santé en français. Puis on va se retrouver de l'autre côté avec encore davantage de contenu parce que, écoutez, on est là pour encore, on est là encore pour plusieurs minutes.
Ici, à Cap-Enfant, on est une petite équipe. Ça nous a donné l'opportunité de faire des activités, de développer des outils pour les parents, de rencontrer des nouveaux gens, de créer ces liens-là entre les régions.
Rachel Smith est la directrice de Cap-Enfant à l'Île-du-Prince-Édouard, un organisme qui offre des programmes aux familles francophones et acadiennes pour les enfants de 0 à 6 ans. Grâce au financement du programme Petite enfance en santé, l'organisme a pu développer un passeport santé ainsi qu'une trousse thématique portant sur la diversité. Elle a été créée pour offrir des outils aux parents, aux grands-parents et aux éducateurs pour promouvoir l'ouverture d'esprit, les expériences vécues pendant l'enfance, le comportement sain et la capacité d'adaptation des jeunes enfants. Les trousses sont composées de livres et de jeux et portent sur des sujets proches de la réalité des familles. Selon Rachel Smith, les trousses connaissent un très grand succès.
Les trousses sont disponibles dans le public et puis on a une association de la petite enfance en santé et on les trousse aussi. Mais la bibliothèque, il y a certaines trousses parce qu'on a la difficulté à les tiendre. Oui, parce que tu peux les emplater pour un mot à la fois. La manière que ça fonctionne, c'est toi la trousse, puis tu travailles sur certains thèmes-là en famille. Ça peut être la trousse des cinq sens ou l'alimentation saine. Ça peut être emporter un nouveau bébé dans la famille. A comme emporter un nouveau bébé à la famille jusqu'à ce qu'on couvre tous les thèmes de la santé jusqu'au deuil. Parce qu'il y avait vraiment un lien qui touchait le deuil non plus. Ça, c'est bien si quelqu'un pas un grand-parent, ou pas un parent, ou un menot, ou une matante, ou ça fait leur show. La manière que les trousses sont faites, c'est pas juste être comme, here, allez jouer, kind of figure it out on your own. C'est parents-enfants qui travaillent sur certains thèmes-là en famille.
Depuis 2020, de nombreux projets portés par des organismes francophones à but non lucratif, allant de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve-et-Labrador, en passant par les trois territoires, ont vu le jour pour répondre aux besoins des familles en accord avec leur réalité régionale et linguistique. Les activités proposées et les outils développés sont multiples et variés. Certains sont offerts en ligne, comme des webinaires, des conférences, des vidéos et des balados. D'autres projets permettent de tisser des liens entre les francophones au sein d'une même communauté.
Une chose, c'est que pour les nouveaux arrivants, quand ils arrivent, tout est différent. Tout est différent.
À Terre-Neuve-et-Labrador, Karina Lamontagne est la directrice générale du Centre de la petite enfance et de la famille, les Petits Cerfs-Volants, le seul service de garderie francophone licencié de la province. Son organisme a lancé le programme « Des Petits Cerfs-Volants au grand vent », qui est destiné aux familles de nouveaux arrivants francophones.
Ça vise les parents de nouveaux immigrants, les parents et leurs enfants qui sont au niveau de la petite enfance. Donc, c'est vraiment de bien les accueillir, c'est de les aider à faire le transfert entre la petite enfance et le système scolaire et de faire ça tout en santé. Parce qu'on offre du support pour les enfants de l'âge de 4 ans, avant l'entrée à l'école, pour finalement aider le parent à savoir à quoi s'attendre en arrivant. Et puis, on va offrir un an de support aux enfants qui rentrent à la maternelle. À chaque fois qu'on fait un atelier avec les parents, on fait une activité avec les enfants en même temps, qui sont à part, mais avec le même sujet. On a même un atelier « Comment s'habiller en hiver ». Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi l'hiver. C'est vraiment de leur donner des outils pour qu'ils soient capables de se sentir un peu mieux dans leur nouvelle société. Et puis pour nous, au niveau de la santé, du moins, je pense qu'une santé globale, une santé mentale, puis une santé de pas toujours être stressé, puis de se demander si on fait-tu correct, on fait pas correct, puis qu'on les aide, mais tu vois, c'est pas seulement l'aide, c'est le support qu'il y a avec, qui pour moi est d'une importance capitale.
Au cours des 4 dernières années, les initiatives du programme Petite enfance en santé ont rejoint plus de 13 000 enfants et plus de 14 000 parents, gardiennes et gardiens partout au Canada. Petite enfance en santé atteint l'objectif d'être près des besoins des familles parce qu'il permet notamment de développer des initiatives qui sont adaptées aux diverses réalités des francophones et qui sont mises en œuvre par les acteurs du milieu. Par exemple, au Yukon, l'organisme Partenariat Communauté en santé a conçu un guide sur la gestion des émotions et de l'anxiété. Le guide est disponible en ligne, comprend des informations ainsi que des astuces pour s'engager pleinement dans le rôle de parent et pour aider à retrouver et maintenir l'équilibre au sein de la vie familiale. En Ontario, Nexus Santé a rendu disponible sur Spotify une série de balados intitulée « Parenthèse », produit par et pour les parents. Au cours de chaque épisode, des parents d'enfants de 0 à 4 ans partagent leur expérience de vie et leurs conseils sur la santé mentale des enfants. En Saskatchewan, depuis 2022, le réseau Santé en français de la province s'est positionné comme point central de coordination des initiatives par l'Association des parents françaisquois, le Conseil des écoles françaisquoises et le RSFS. Frédéric Baudemont a piloté le dossier de Petite enfance en santé alors qu'elle était directrice générale du réseau Santé en français de la Saskatchewan.
Enfin, on n'avait pas de ressources en français et toutes les ressources auxquelles les parents peuvent avoir accès, ce sont des ressources qui viennent souvent d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises ressources, ce sont des bonnes ressources. Mais en même temps, les gens aiment se voir. Les gens aiment que les ressources qui soient accessibles soient... qu'il y ait une sensibilité Saskatchewan, je veux dire. Et pour répondre à ça, toujours dans notre volet petite enfance, vous avez toute une série de vidéos qu'on a développées. Sur l'ergothérapie, sur l'orthophonie, la pédiatrie, les soins bucco-dentaires. Toutes ces vidéos, on les a développées avec des professionnels de la santé francophones ou francophiles de la Saskatchewan. Ce sont vraiment les projets Petite enfance en santé qui nous ont amenés à avoir une réflexion sur comment rendre les choses accessibles facilement aux parents. On s'est rendu compte que les pages Petite enfance en santé sont les pages les plus visitées sur notre site web. Nos vidéos qui ont été développées dans le premier projet Petite enfance en santé, ce sont les ressources qui ont été le plus visitées dans les dernières années.
Le principe du par et pour les communautés du programme Petite enfance en santé a permis à l'Association des francophones des parents du Nouveau-Brunswick de créer un projet sur les iniquités de la santé. Au fil des consultations et des discussions avec les familles, l'organisme a pu identifier 6 éléments qui freinaient leur accès à des services de santé. Parmi ceux-ci, le stress relié à l'accès à une alimentation saine et abordable. De concert avec les parents, l'organisme a décidé de s'attaquer à l'insécurité alimentaire et a mis sur pied un registre des ressources alimentaires de la région ainsi qu'un kit de départ pour le jardinage axé vers les enfants de 0 à 6 ans dans les garderies, centres de ressources familiales et écoles de la région. Sylvain Trahan est coordonnateur de projet à l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick.
Augmentation du coût de la vie, puis situation économique difficile, il ressortait beaucoup. Puis, en lien avec ça, les parents ont décidé de s'attaquer à l'insécurité alimentaire. C'est des choses comme de quoi qu'ils disent, bon ben, garde, oui, ce projet-là est porteur. Ce projet-là peut faire avancer notre communauté vers une communauté plus résiliente et beaucoup plus en santé, je te dirais. Ça nous aide à... Ça nous donne le petit go-ahead qui dit comme de quoi, oui, ça avance et ça donne quelque chose. Parce que, tu sais, petit pas, les choses s'améliorent, puis on voit comme de quoi l'effet qui se répercute sur d'autres personnes aussi.
Pour en apprendre davantage sur toutes les initiatives qui ont été mises sur pied, consultez le site web santéfrançais.ca ou contactez le réseau de santé en français de votre province ou territoire afin d'en apprendre sur la programmation locale en petite enfance en santé.
contenir des infos.
Merci beaucoup à la Société Santé en français.
Pour ce contenu, c'était vraiment intéressant.
Très intéressant.
Oui, hein, très intéressant.
On va se coucher un petit peu moins niaiseux ce soir en apprenant qu'il y a des initiatives comme celle-là qui existent.
Qui sont importantes pour nous.
Pour nous et pour nos petits.
Oui, effectivement, mon cher.
C'est le temps de s'arrêter pour une pause, je pense.
Oui, parce qu'on a bien d'autres informations qui s'en viennent.
Ah, beaucoup d'autres choses dans Peu contenir des infos. On est là pour encore, on va appeler ça deux autres quarts?
Il reste deux autres quarts, oui.
OK.
Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
On entame la deuxième demi de notre émission où... En langage de football.
Le troisième quart.
Le troisième quart.
Ben absolument.
Effectivement.
C'est là qu'on sépare les hommes des enfants.
Ah oui, dans le football, quart. C'est ça?
Ben. Okay.
Tu vois comme je suis gentil quand même, hein?
Oui.
Je me suis dit, il vient d'être sevré de sa saison de football avec le Super Bowl encore tout récent. Je me dis, ben
je suis encore.
J'y remette un peu le vocabulaire et tout ça. Dans
mais je suis pas encore sevré. Hein.
Non,
moi, c'est long. Hein. C'est un long processus.
T'es le genre Elvis Gratton à te repasser des cassettes de vieilles games.
J'aime pas ça quand tu ris de moi comme ça.
Non, c'est correct.
Mais le pire, là, OK, le pire, c'est que, bon, avec le genre de télévision que j'ai, là, je peux aller voir des vieux matchs.
Ah oui, OK.
Et honnêtement,
fait...
Un soir, qu'il n'y a rien à la télévision qui me tente de regarder, puis là, je vois, Arkansas contre Alabama. Ah oui, c'était une bonne game, ça. Clic.
Mais récent ou encore des
enfants? C'est souvent des matchs de l'année d'avant, là.
OK.
L'année qui vient de se terminer. Fait que moi, je regarde des vieux matchs de football. Puis...
Ben, je savais qu'il y avait des gens, par exemple, qui se retapaient des vieux matchs vintage, entre guillemets, de la Ligue nationale de hockey.
Oui.
À un moment donné, on se repasse les matchs du Vendredi Saint entre les Nordiques et les Canadiens.
Oui.
Des affaires comme ça. Mais
ça m'arrive de regarder des vieux Super Bowl. Ça, j'haïs pas ça. Ça, je trouve ça le fun. Là,
ben, ça a l'avantage au moins que tu connais le punch.
Habituellement, oui, je sais qui a gagné, oui. Okay.
Ceci dit, j'étais tantôt dans un sujet, dans l'ouverture de l'émission, un sujet pour le moins sérieux. Hein? Tu sais, j'ai parlé des traces de pas vieilles de 100 000 ans là, qui ont été découvertes au Maroc.
Assez fascinant comme...
Là, je vais aller dans quelque chose d'un peu plus léger. Quoique, encore une fois, on est dans, pas de l'éducation, mais l'information, l'instruction... Comme qu'on dirait.
Tu veux m'instruire?
Je vais vous parler des guitares les plus chères au monde.
Oh!
Pourquoi je vous parle de ça? C'est que le leader du groupe Dire Straits,
oui.
Mark Knopfler,
méchant guitariste.
Ça, c'est un Guitar Hero.
Oui.
Je trippe sur Dire Straits.
Oui.
Je pourrais
la guitare dans le chanson, c'est comme...
Effrayant.
Oui.
Alors, il a vendu aux enchères à la fin du mois de janvier dernier à Londres. Pas moins de 120 guitares et amplis. Je ne sais pas si c'était pour payer la facture d'épicerie, mais...
Wow!
Ouais. Et l'instrument le plus convoité, une Gibson Les Paul Standard de 1959, était estimé entre 380 000 et 635 000 $ américains.
Aïe, aïe!
Une guitare, là, quand même.
C'est juste une guitare, ouais, mais...
Point char.
Il l'a joué.
Et voilà. Et elle a été finalement adjugée pour un peu plus de... D'après toi?
Plus de 500 000.
Ah oui, pas mal plus que ça. 875 000 $ américains. Je rappelle qu'elle était estimée entre 380 quelques et 635 000. Et au total, la vente de ces guitares-là a dépassé les 10,5 millions de $ US. Et il y a de cette somme-là, 25 % qui ont été reversés à des œuvres caritatives,
oui.
Dont la Croix-Rouge, entre autres.
Ah, ça, c'est cool.
Mais là, on se demande, 875 000 US, est-ce que c'est la guitare la plus chère vendue jusqu'à ce jour?
Simon, est-ce que c'est la guitare la plus chère vendue à ce jour?
Réponse courte, non.
OK!
Mais réponse longue, parce que c'est là où la partie plus instructive embarque,
oui.
C'est qu'il y a d'autres guitares qui sont vendues quand même pas mal plus que ça. Puis quand je dis pas mal plus, c'est pas mal plus. Il y a une guitare Martin D18E qui avait appartenu à Kurt Cobain
oh.
du groupe Nirvana
oui.
qui a été vendu en juin 2020 pour la rondelette somme de 6 millions de dollars.
Wow.
Elle avait été utilisée, il faut dire que c'est quand même une guitare mythique, là.
Ouais.
Elle avait été utilisée par Cobain pendant le fameux concert. Tu sais que MTV, à l'époque, je ne sais pas s'ils le font encore, là, les MTV, est-ce que ça existe encore, tout simplement?
Ah, les
MTV
les...
Unplugged.
Oui, oui, les concerts, oui.
Ben, en 1993, cette guitare-là avait été vue et on avait joué dessus. Kurt Cobain a joué sur cette guitare-là pendant son MTV Unplugged de Nirvana en 1993.
Wow!
Une autre guitare de Kurt Cobain, Benkin.
Une autre.
Une autre. Une Fender Mustang 1969 a été adjugée au montant de 4,7 millions de dollars.
Bon, bien que ça. Bon. Bon.
Lors d'une autre vente aux enchères en 2022, celle-là. La Black Strat, c'est son surnom, c'est une guitare de David Gilmour, de Pink Floyd.
Uh-huh.
Hein? Elle s'est vendue tout près de 4 millions de dollars. Rien de moins. C'est une Fender Stratocaster qui avait été offerte à la vente aux enchères à l'époque pour une campagne de financement qui s'était tenue au mois de juin 2019. Et ça avait été fait au profit d'une organisation non gouvernementale vouée à l'environnement. Et Gilmour avait mis aux enchères, tu fais rien qu'un peu, donne une guitare de même.
Uh-huh. Hein? Ah, c'est gentil.
Imagine ça, hein? C'est une radio parmi les radios membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada recevait une guitare ou la bass de Paul McCartney, par exemple, en disant, tiens, cadeau comme ça, guitare ou une bass, que tu puisses mettre ça aux enchères. Tu fais comme, fun. Et je conclurai en vous
parlant... Moi, je la garderai, là.
Oui, mais c'est quand même, c'est de la peu d'argent. Et là, je veux conclure avec une autre guitare qui a été vendue pour une somme quand même, une coquette somme. C'est une guitare Kramer qui a appartenu à Eddie Van Halen. Hein, fondateur du groupe du même nom, Van Halen, et elle avait trouvé preneur celle-là, il n'y a pas tellement longtemps quand même, en avril 2023, donc l'année passée, pour la somme de 3,9 millions de dollars.
Mais, tu sais, quand tu y penses, il faut que tu aies de l'argent pour acheter ça, là. Parce que c'est juste une guitare. Là.
Oui, c'est des investisseurs, c'est des gens qui ont de l'argent qui leur sort par les oreilles.
Je sais que c'est un investissement dans le sens où elle va probablement prendre de la valeur.
Probable.
Plus le temps va passer. Mais toi, tu ne verras probablement pas non plus là, cet argent-là.
Ben,
mais,
c'est ça. Il faut déjà que tu n'aies un peu de coller.
Il faut que tu n'aies de coller.
Dans l'espoir de la garder 10-15 ans, par exemple, puis de la revendre après ça pour un montant encore plus élevé.
Ouais. Mais tu sais, il faut que tu en aies de lousse. Là.
Un petit peu de coller dans le compte en banque.
Ben, tu sais, 4,7 millions. Hein. Tu connais le guide de l'auto?
Oui, bien absolument.
OK. Premièrement, le guide qui est un livre.
Oui.
Hein, ça a commencé comme ça, le guide de l'auto. C'était un livre avec Jacques Duval, entre autres.
Oui, qui s'est éteint.
Oui, qui est décédé dernièrement. Le guide de l'auto est maintenant, bon, un site web. Puis bon, il y a plusieurs gens qui travaillent là-dessus. Et ils ont sorti dernièrement les rappels de véhicules inusités.
Ah!
Ou carrément étranges. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai dit, ah ben là, j'ai pas le choix, là, j'en parle. Pour les gens qui ne consultent pas le site du guide de l'auto comme je le fais à toutes les semaines. N'est-ce pas, Simon?
Je le fréquente un peu, mais pas mal moins que toi, j'en conviens.
Ben, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup d'actualités de voitures. Mazda 6, OK? De 2010 à 2012, c'était 5466 unités rappelées au Canada. Le problème... Sur certains véhicules munis du moteur de 2,5 litres, puis je me rappelle de ce rappel-là, un type particulier d'araignée pourrait tisser une toile dans le tuyau de ventilation du filtre à charbon, ce qui pourrait causer une restriction dans le tuyau. Si ça se produit, la pression dans le réservoir à carburant pourrait devenir excessivement négative lorsque le système de contrôle des émissions travaille pour purger les vapeurs du filtre à charbon.
Tu pensais qu'il a fallu qu'il arrive?
Il a fallu que ça arrive pour
ce
que
ce genre de situation-là de ça. Fasse comme « oh ».
Oui.
Et...
Oui. Puis je me souviens de ce rappel-là en plus, parce que j'avais fait comme « ben voyons donc, ça a-tu de l'allure? » Mais effectivement, pour quelqu'un qui est pogné avec le problème, oui. Chevrolet Sonic 2012. Ça concernait 1215 unités. Sur certains véhicules,
les patins de frein avant, écoute bien celle-là, pourraient ne pas avoir été posés lors de l'assemblage du véhicule.
Hein? Ben non!
Là, tu te dis, ben, OK, les patins de frein, allô?
Tu sais comment on dit, t'avais une job, là, you ben, had one job, là.
T'en avais rien qu'une, là.
Oui, t'étais sur la chaîne de montage.
Tu mets patins de frein, là.
Puis une journée dans ton corps de travail.
Oui, t'as oublié.
Ouch! OK, ouais. OK.
C'est, évidemment, c'est, bon, ça augmentait la distance d'arrêt, ce qui...
Je comprends pas.
Bon, aurait pu possiblement causer des collisions.
Ben.
Nissan, plusieurs modèles, de 2004 à 2013, ça concernait 10 000, un petit peu plus que 10 000 unités. Sur certains véhicules, l'emblème en plastique sur le couvercle du coussin gonflable sur le volant pourrait se détacher.
OK.
Et se transformer en projectile quand le coussin gonflable se déploie lors d'un accident. Pensez-y, ben oui, ton petit emblème-là sur le volant... Et ton coussin, il part.
Mange en pleine face.
Ben oui, aïe aïe, là. Le rappel vise certains véhicules dont le coussin gonflable avant du côté conducteur a été remplacé.
OK. Ça doit fesser quand même, là, tu reçois ça en vrai, oui.
Ben, ça
va être en plastique, là.
Aïe aïe, là.
Ouais, sous l'impact, là.
Ben oui, ça pourrait... Ben, puis tu sais, c'est comme
aïe.
Franchement dangereux. Là.
Ouais.
Volkswagen Golf et Jetta, 2002 à 2004, concernaient 108 000 unités. L'élément chauffant du siège de certains véhicules équipés des sièges confort optionnels pourrait mal fonctionner. Si cela se produisait, la personne assise sur le siège pourrait ressentir une chaleur excessive à cet endroit. L'élément chauffant pourrait endommager le siège, même y percer un petit trou, et... Si cela se produisait, bien entendu, on remarquerait une odeur de fil chauffé et d'objets fondus ou la présence d'un petit peu de fumée. Et dans certains cas, le petit trou percé dans le siège pourrait aussi endommager les vêtements de la personne assise sur le siège. Tu dois-tu faire le saut, mon ami?
Mais tu dois faire le saut, effectivement.
À un moment donné, ça commence à chauffer.
Ça sent le... Il me semble que ça sent le roussi un peu.
Oui, c'est ça.
À rigueur, je dirais que ça sent un petit peu le cochon.
Ah oui, c'est ça, le cochon brûlé.
Oh, okay.
C'est moi.
C'est moi qui est en train de passer au feu. Là.
C'est moi le cochon qui brûle.
Oui.
OK. Ouais. Mais il y en a beaucoup de rappels inusités, soit dit en passant. Mais tu sais, des rappels de véhicules, là.
Oui.
Si tu regardes un petit peu ça, là, je veux dire, il y en a là,
il y en a constamment, ouais,
des centaines et des centaines par année. Là.
C'est pas surprenant, là, je
non.
veux dire, étant donné, compte tenu de la quantité de véhicules qui doivent sortir des usines. Et
c'est
tout ça.
Souvent, c'est pas grand-chose, mais des fois, c'est ben, comment se fait, ils n'ont pas fait ça.
Ouais. Ça surprend moins comme, par exemple, on s'aperçoit qu'un fil n'est pas nécessairement de très bonne qualité,
exact.
Il peut briser de façon prématurée.
C'est ça.
Mais quand c'est rendu... T'oublies de mettre des affaires de break après.
Ben, là...
C'était comme ta job, mon doux.
Ben, c'est ça.
C'est le moment de s'arrêter pour une dernière pause avant la fin de l'émission.
Oui, et on revient avec...
Le quiz? Certain?
Oui, c'est le quiz.
OK, ben, on y va.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
On n'a pas annoncé les couleurs de ce quiz-ci. Ni en ouverture de l'émission, ni dans le deuxième, ni dans le troisième bloc.
Non.
Puis t'es pas au courant, pantoute, là.
J'ai aucune espèce d'idée ce que tu me réserves aujourd'hui.
Alors, autant messieurs, mesdames qui êtes à la maison que François en studio, vous allez devoir subir l'épreuve des lieux célèbres.
Des lieux célèbres.
Un quiz sur les lieux célèbres.
Oh, OK. Ça pourrait être un petit peu difficile, mais c'est correct.
Ça touche un peu au tourisme, à la géographie, à des matières comme celle-là. On va commencer d'abord avec... quel est le nom de l'ancienne citadelle d'Athènes en Grèce? Et vous avez un choix de réponse.
OK, c'est le nom...
De l'ancienne. Le nom de l'ancienne citadelle d'Athènes en Grèce... Parmi les trois choix de réponse que je vous donne. Est-ce A, le temple de Zeus? B, le théâtre de Dionysos? Ou C, l'acropole?
Je dirais l'acropole.
L'Acropole.
Ouais, non.
Oui, c'est ça. C'est la bonne réponse. C'est. Les deux autres existent aussi. Ouais, bravo! Bravo! J'aimerais ça te donner un applaudissement.
Ben oui, j'aurais aimé ça, là, mais bon.
C'est-tu la salée?
Ben, est-ce que, non, c'est correct, je l'entends dans mes...
Tu l'entends dans ta tête?
Je l'entends dans ma tête. Mes petits amis sont en train de me féliciter.
Me ferme les yeux, puis je suis comme Michel Côté dans le film Cruising Bar. Il est dans le bar, puis il s'imagine qu'il faut. OK. L'Acropole, ben, c'est une citadelle, effectivement, construite sur la partie la plus élevée et la mieux défendue, va sans dire. Okay. 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, et ça s'étend sur... 3 hectares.
3 hectares.
Tu sais combien que ça fait de... Je vais le mettre en terrain de football.
Oui, vas-y donc.
C'est à peu près 4 terrains de football.
Merci, Simon. Plaisir. OK, là, je peux le voir dans ma tête.
Tu peux le voir.
Oui. Ça fait avant ça, je ne pouvais pas.
Ça fait grand quand même.
Ben, mais hein.
OK. Quel palais britannique est la résidence à plein temps du monarque? La reine quand elle était là, puis le roi, là.
Oui,
moi, c'est ça. Alors, est-ce A, le Kensington Palace... Est-ce B, le Buckingham Palace, ou C, le Blenheim Palace?
Le quoi?
Le Blenheim
Palace. Le Blenheim Palace. Blenheim Palace. Ben, je vais y aller pour Buckingham, tiens.
Ouais, Buckingham, ça sonne bien.
Ça. Buckingham, ça sonne bien, là.
Ouais, B, alors c'est la bonne réponse, Buckingham Palace. C'était pas compliqué, ça.
Mais j'aimais bien le troisième, par contre.
Blenheim. Tu sais, des fois, comme ça, il y a des noms qui sont plantés là. Alors... Dans quel pays se situe Angkor Wat? A-N-G-K-O-R, espace, V-A-T. Angkor Wat. Est-ce A, au Vietnam? Puis tu vas voir après pourquoi. Parce que, tu sais, j'ai dit des lieux célèbres, mais c'est quand même un certain côté célèbre, effectivement. Okay. C'est très visité, apparemment. Oh. Alors, est-ce A, au Vietnam?
Okay.
B, en Inde? Ou C, au Cambodge?
Angkor, je dirais, en Inde.
Non, c'est au Cambodge.
Au Cambodge?
Oui, au Cambodge. Et Angkor Wat, je ne sais pas si je le prononce comme du monde, j'espère.
Ça sonne bien, en tout cas.
C'est l'un des plus grands temples de la planète et le plus grand monument religieux du monde.
Ah oui?
Alors que c'est immense. J'ai jamais vu, ça n'a jamais été dans mon to-do list. Mais c'est comme ça, là que c'est
juste. Ah oui, hein?
Ouais. Lequel de ces monuments américains, très célèbres au demeurant, a été créé par un artiste italien? Est-ce A, la Statue de la Liberté? B, le panneau Hollywood? Ou C, le taureau de Wall Street? Créé par un artiste italien.
OK, c'est pas la statue. C'est pas le panneau d'Hollywood, je pense pas.
C'est la bonne réponse. Ouais. Ben écoute.
Par déduction.
Ben la Statue de la Liberté, c'est Eiffel.
Oui.
C'est ça. Le panneau Hollywood, typiquement américain, ça là. Il n'y a pas personne à l'autre bout là, de la planète qui a dit on va mettre.
On met ça à Hollywood. Ouais, là. C'est ça. Ouais. Et on met des grosses lettres.
Ouais, le taureau de Wall Street est une sculpture de l'artiste d'origine italienne Arturo Di Modica, qui est né en 1941 à Vitoria, en Sicile, et qui est mort en 2021 dans le même village où il avait vu le jour.
Ah oui?
Ouais.
Cool. Ben, pas cool qu'il est mort, là, mais ben je veux dire cool qu'il ait vécu toute sa vie dans le même village.
Ben, je ne sais pas s'il a vécu toute sa vie dans le même village, mais en tout cas, il y est décédé, toujours est-il.
OK.
Et il reste encore 3 questions.
D'accord. Je suis prêt.
Ça va? Jusque-là, ben, c'est quand même possible.
Ben non, ça va bien, mon
raisonnable.
Ben oui, écoute, j'ai eu...
4 questions, puis tu as 75%, je pense.
Ben oui.
Il y a juste une que tu as manqué, c'était celle à propos de...
Du temple.
Angkor Wat.
Oui, Angkor. Mais c'est parce qu'Angkor, je pensais, les Indes,
ouais, ça sonnait.
Peu, hein?
Ouais. Ben, en tout cas, sonne Asie du Sud-Est. Oui. C'est quoi, là? Lequel de ces monuments a été érigé en premier entre A, le Taj Mahal en Inde, B, le Colisée de Rome en Italie, ou C, le Machu Picchu au Pérou? Quel qui a été érigé en premier, d'après toi?
Le Machu Picchu au Pérou.
Non. Malheureusement, c'est le Colisée de Rome.
Mais c'est ça que j'allais dire, mais j'ai dit, c'est sûr qu'il m'a mis une colle à quelque part.
Ben non, pas tant que ça, mais le Colisée de Rome a été construit. C'est moi, le Machu Picchu, là, je le pensais plus vieux que ça, on va te dire.
Ah, c'est pas vieux?
Puis je suis allé vérifier, puis non. Ben, c'est pas vieux, c'est quand même plus vieux que toi et moi, ensemble.
Ben oui.
Le Colisée de Rome a été construit de 72 à 80 après JC.
Mm-hmm.
ou Jésus-Christ. La construction du Taj Mahal a commencé en 1631 et s'est achevée en 1648. Et l'ancienne cité inca du Machu Picchu au Pérou est une construction qui date du 15e siècle.
Du 15e siècle?
Oui, les années 1500. Les années, pas 1500, mais les années 1400, c'est-à-dire.
Ouais, j'aurais pensé beaucoup plus vieux que ça.
Moi aussi, je pensais que c'était plus vieux que ça.
Ouais.
Mais non, les années 1400, donc 15e siècle. On s'en vient chez nous, au Canada.
OK.
Il est très célèbre. L'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, tu connais un peu?
Oui.
Oui, tu l'as déjà marché, tu as marché à genoux les marches pour monter là?
Oui.
Ouais. Tu veux? Je pense pas, non. Ah ouais, hein?
Pour de vrai.
Pour vrai, hein?
Pour de vrai.
Eh, my God. M'impressionne.
Mais
je
ne les ai pas toutes faites.
Ben, j'espère.
Alors, pas capable.
Il y en a. Mais il y a des gens très pieux qui.
Ben oui.
OK. Est-ce que. Il a été ouvert en SA 1886, B 1904 ou C en 1922?
1904.
Bonne réponse. Bravo. Et on le doit en quelque sorte au frère André.
André, oui.
Effectivement, il a été inauguré en 1904, quoique.
Quoique.
Quoique les travaux de l'ensemble des lieux ne se sont terminés qu'en 1967.
En 1967?
Oui. Il a été ouvert, inauguré en 1904, mais les lieux en tant que tel, l'oratoire Saint-Joseph.
C'est gros, là.
Juste la bâtisse.
Non, non, c'est ça, c'est gros, là.
Alors, ça s'est terminé en 1967. Et c'est un lieu historique national du Canada depuis maintenant pratiquement 20 ans. Ben, ça va faire 20 ans en 2024. Depuis le 3 mai 2004, l'oratoire Saint-Joseph est un lieu historique national du Canada. Alors, 20 ans cette année qu'on l'a classé comme lieu historique national. Et je complète avec... Celle-là est assez facile. Franchement, là...
J'haïs ça quand tu dis ça, parce que c'est toujours ceux-là que je manque.
Non.
OK.
J'ai dit, je vais finir sans douce. Pourquoi la tour de Pise penche-t-elle?
OK.
Est-ce A, parce que le sol s'est affaissé? Est-ce B, elle ne penche pas? C'est une illusion d'optique. Ou C, elle a été conçue ainsi dans le but d'en faire une attraction célèbre?
En fait, c'est au cours de la construction que ça s'est passé, cette histoire-là. Là.
Ouais.
On avait parlé de ça, là, oui. Il me semble... On s'en est pas parlé dernièrement, toi puis moi?
On en avait déjà parlé,
Je pense que oui.
Alors, la réponse, c'est...
Oui, c'est la construction.
Elle n'a pas été conçue pour en faire une attraction célèbre. C'est le sol... C'est la réponse.
Le sol qui s'est affaissé pendant la construction.
C'est ça. C'est qu'ils ont creusé, ils n'ont pas creusé suffisamment. Je pense qu'ils ont creusé sur une affaire de quelques mètres, tout simplement. Et effectivement, les sols qui sont situés juste en dessous sont littéralement malléables à cause de la présence d'eau en profondeur. Ça a l'air qu'il y a une nappe phréatique ou une affaire comme celle-là dans les sous-sols de la tour. Et au fil du temps, ça l'a amené à pencher tranquillement. Et la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, ce serait soit de la prendre, de l'aller la reconstruire ailleurs, ce qui serait un petit peu calme. Tout ce qu'ils font, c'est de la stabiliser.
Oui, c'est ça.
C'est à peu près la seule affaire qu'ils peuvent faire parce que sinon, ça va se
continuer. C'est une attraction, là. La tour de Pise.
Ouais. Et c'est devenu non plus la tour de Pise, mais c'est devenu la tour penchée. Tu sais, elle est connue comme la tour de Pise.
Ben, c'est la tour penchée.
C'est devenu la tour penchée.
Effectivement, mon cher. On pourrait compléter. Toi, Nintendo, là, tu joues-tu à ça?
Je ne joue pas, mais j'ai deux boys à
main. Eux autres, ils jouent.
Oui, ils ont une console de marque Nintendo en plus.
Bon, la Nintendo Switch.
Ah, surpris, tu la connais celle-là. T'sais.
Oui, tu la connais celle-là. Hein? Elle s'est vendue à plus de 139 millions d'unités.
Wow! 139 millions, tu pensais?
La console est désormais le deuxième appareil le plus vendu de la compagnie. La Switch a éclipsé la Wii, la Nintendo 3DS... mais demeure derrière la console d'origine.
Ah oui, la première. Là.
La première. Oui. Celle-là que j'ai eue, d'ailleurs. C'est la seule? Oui, c'est la seule que j'ai achetée.
La NES, la Nintendo Entertainment System, la première.
La première, Mario.
Oui, absolument.
Dans une mise à jour dernièrement, la compagnie a révélé... qu'il avait connu une croissance généralisée par rapport à l'année dernière grâce à la Switch.
La compagnie a réussi à
faire de la... Oui, oui.
Ah oui, hein?
Oui.
Grâce à cette console-là.
C'est ça, exactement. Nintendo va chercher à reproduire le succès de cette console-là avec la très attendue Switch 2.
Oh!
Mm-hmm. Okay, c'est pas encore annoncé, mais c'est dans les plans. Elle va venir... Bon, la deuxième génération va venir avec... Finalement, avec quelques upgrades, si tu veux.
Ouais.
Le stockage interne va être doublé, va passer de 32 gigs à 64 gigs parce qu'il y a trop de gens qui devaient désinstaller des jeux pour en installer des nouveaux. Et l'écran serait fort probablement un écran LCD plutôt qu'un OLED.
Oh, avec peut-être une résolution un petit peu plus élevée, j'imagine.
Exactement, oui. On parle de 120. 120 Hz.
Facteur de rafraîchissement de l'écran.
On va doubler.
Oh!
Elle va coûter?
Moi, j'ai peur un peu, par exemple.
400 US. C'est 100 $ de plus que l'appareil de 2021.
Ouais. Ça reste une bebelle, hein?
Ça, ben oui, c'est une bebelle.
T'achètes ça comme cadeau de Noël, là? Tu dis à ton kid... C'est bien parce que tu étais fin. Parce que
ben oui.
C'est bien parce que tu étais fin.
Ben, OK, c'est bien fait, là, ces petites machines-là.
Oui,
là.
Oui, oui, oui,
ça, ça fait. Pour quelqu'un qui aime les jeux, je peux comprendre. Retourne dans le temps, là, quand on achetait les premières consoles Nintendo, là, ça coûtait, je ne me souviens plus combien, là, mais c'était quand même assez cher. Mêlé en dollars d'aujourd'hui.
Ah, ce serait encore. Ça serait...
Ben, c'est ça, je veux dire. T'sais, on l'a fait. Plus jeune, puis là, on se dit, comment ça va être cher? Oui, mais en dollars d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement si cher.
C'est ça, il faut relativiser, il faut remettre les choses en perspective dans leur
effectivement,
dans leur contexte
mon cher.
Historique.
Historique. On était très historique cette semaine.
Très historique. Des empreintes. Oui. On a parlé de l'histoire des guitares. On a parlé. Fait que, tu sais.
Des empreintes de 100 000 ans, là.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm.
Et ça complète pour cette semaine?
Sur ça, on va laisser des traces.
On va laisser des traces pour que vous puissiez nous suivre et nous retrouver jusque la semaine prochaine.
Okay. Bonne semaine, tout le monde.